Chapitre 7. Malgré les menaces du ciel chargé de nuages, la terrasse du café est grouillante de monde. Pas une table qui ne soit occupée. Les cafés-concerts, les cirques, les théâtres ont vomi le gratin de leur public. Partout des toilettes claires et des habits noirs, des demoiselles empanachées comme des chevaux de cortège, ennuyées, malsaines et blafardes, des gommeux ahuris dont la tête se penche sur la boutonnière défleurie et qui mordillent le bout de leur canne avec des gestes grimaçants de macaques. Quelques-uns, les jambes croisées, pour montrer leurs chaussettes de soie noire brodées de fleurettes rouges, le chapeau renvoyé légèrement en arrière, sifflotent un air à la mode. Le refrain que tout à l'heure ils ont chanté aux ambassadeurs, en s'accompagnant avec des assiettes, des verres et des carafes. La dernière lumière s'est éteinte à la façade de l'opéra. Mais tout autour, les fenêtres des cercles et des tripots flamboient, rouges, pareils à des bouches d'enfer. Sur la place, acculées au bord du trottoir, des voitures de remise s'alignent, lamentables et rapiécées, sur une triple file. Les cochers dormaillent, couchés sur leurs sièges. D'autres, réunis en groupe, comiques ou délivrés de hasard, causent en mâchonnant des bouts de cigares et se racontent avec de gros rires les gaillardes histoires de leurs clientes. On entend sans cesse la voix criarde des vendeurs de journaux qui passent et repassent, jetant au milieu d'un boniment croustillant le nom d'une femme connue, la nouvelle d'un scandale, tandis que des gamins, crapuleux et sournois, glissant comme des chats entre les tables, offrent des photographies obscènes qu'ils découvrent à demi pour fouetter les désirs qui s'endorment, rallumer les curiosités qui s'éteignent. Et des petites filles, dont le vice précoce a déjà flétri les maigres visages d'enfants, viennent présenter des bouquets en souriant, d'un sourire équivoque, en mettant dans leurs œillades la savante et hideuse impureté des vieilles prostituées. À l'intérieur du café, toutes les tables sont prises, pas une place vide. On boit du bout des lèvres un verre de champagne, on grignote une sandwich du bout des dents. Toutes les minutes, des curieux entrent avant de monter au club ou d'aller se coucher, par habitude ou par chic, et pour voir aussi s'il n'y a pas quelque chose à faire. Lentement et se dandinant, ils font le tour des groupes, s'arrêtent pour causer avec des amis, envoient un rapide bonjour de la main, de ci, de là, se regardent dans les glaces, remettent en ordre la cravate blanche qui déborde le par-dessus clair, puis s'en vont, l'esprit orné d'une nouvelle expression d'argot, demi-mondain, plus riche d'un potin cueilli au passage et dont leur désœuvrement vivra pendant tout un jour. Les femmes, accoudées devant un soda water, leur tête veulent que vergette de petites hachures roses, appuyées sur la main longue hantée, prennent des airs languissants, des mines souffrantes et rêveuses de poitrinaire. Elles échangent avec les tables voisines des clignements d'yeux maçonniques et d'imperceptibles sourires, tandis que le monsieur qui les accompagne, silencieux et béat, frappe à petits coups de canne la pointe de ses souliers. La réunion est brillante, tout enjolivée de fanfreluches et de dentelles, de pasquilles et de pompons, de plumes teintées et de fleurs épanouies, de boucles blondes, de tresses brunes, et de lueurs de diamants. Et tous sont à leur poste de combat, les jeunes et les vieux, les débutants au visage imberbe, les chevronnés aux cheveux blanchis, les dupes naïves et les hardis écumeurs, irrégularité sociale, situation fausse, vice déréglé, basse cupidité, marchandage infâme, toutes les fleurs corrompues qui naissent, se confondent, grandissent, et s'engraisse à la chaleur du fumier parisien. Et c'est dans cette atmosphère chargé d'ennui, d'inquiétude et de parfums lourds, que nous venions tous les soirs désormais. Dans la journée, les stations chez les couturières, le bois, les courses, la nuit, les restaurants, les théâtres, les réunions galantes. Partout où ce monde spécial s'étale, on était certain de nous voir apparaître. Nous étions même très choyés à cause de la beauté de Juliette, dont on commençait à parler, et de ses robes qui excitaient l'envie, l'émulation des autres femmes. Nous ne dînions plus chez nous. Notre appartement ne servait plus guère que de cabinet de toilette. Quand Juliette s'habillait, elle devenait dure, presque féroce. Le pli de son front lui coupait la peau comme une cicatrice. Elle parlait par mots saccadés, se fâchait, semblait emportée vers des buts de destruction. Autour d'elle, le cabinet était au pillage, des tiroirs ouverts, des jupons gisant sur le tapis, des éventails sortis de leurs étuis, épars sur les chaises, des lorgnettes errant sur les meubles, des mousselines bouffant dans des coins, des fleurs tombées, des serviettes rougies de fard, des gants, des bas, des voilettes perdues aux branches des lampes flambeaux. Et dans ce pêle-mêle, Célestine, agile, effrontée, cynique, évoluait, bondissait, glissait, s'agenouillait aux pieds de sa maîtresse, piquait ici des épingles, là ajustait des plis, nouait des cordons. Ses mains molles, flasques, faites pour tripoter de sales choses, se plaquaient sur le corps de Juliette avec amour. Elle était heureuse, ne répondait plus aux observations vives, aux reproches blessants, et ses yeux, allumés d'une flamme de vice canaille, s'attachaient sur moi, obstinément ironiques. Ce n'est qu'en public, à l'éclat des lumières, sous le feu croisé des regards d'hommes, que Juliette retrouvait son sourire et l'expression de joie un peu étonnée, candide, qu'elle conservait jusque dans les milieux répugnants de la débauche. Et nous venions en ce cabaret avec Gabriel, avec Jocelyn, avec des gens rencontrés on ne sait où, présentés on ne sait pas par qui, des imbéciles, des escrocs, des princes, enfin toute une chiennerie internationale et boulevardière, que nous traînions à nos trousses. Et on disait généralement la bande Maintier. Que faites-vous ce soir? On jouait avec la bande Maintier. Jessela nous donnait des renseignements sur le personnel de l'endroit. On n'ignorait rien des dessous de la vie galante. Il en parlait d'ailleurs avec une sorte d'admiration, en dépit de tous les détails honteux ou tragiques qu'il nous révélait. Cet homme très entouré et qu'on écoute respectueusement, mais il avait été valet de chambre, et son maître le chassa pour vol. Mais il se fit croupier, exploita tous les bouches clandestins, devint caissier de cercle, puis habilement, pendant quelques années, disparut. Et aujourd'hui, il possédait des intérêts dans des maisons de jeu, des paris dans des écuries, de courses, du crédit chez les agents de change, des chevaux et un hôtel où il recevait. Oh, il prêtait secrètement de l'argent à 100% à des demoiselles dans l'embarras et dont il avait au préalable expertisé les talents et la rouerie. Généreuse à ses heures, avec Esclandre, achetant des tableaux très chers, il passait pour un homme honorable et un protecteur des arts. Dans les journaux, on citait son nom dévotieusement. Et cet autre énorme joufflu, dont le visage gras et plissé est éternellement fendu d'un rire d'idiot? Un enfant, 18 ans à peine. Il a une maîtresse retentissante avec laquelle il se montre au bois le lundi, et un professeur abbé qu'il conduit au lac le mardi dans la même voiture. Sa mère a ainsi compris l'éducation de ce fils, voulant qu'il menât de front les saintes croyances et les galantes aventures. Au demeurant ivre tous les soirs et cravachant sa vieille folle de mère, Un vrai type, résumait Gesselin. Oh, un duc, celui-là, un duc porteur d'un grand nom de France. Ah, le joli duc, le roi des piques-assiettes. Il entre timidement, comme un bien peureux, regarde à travers son monocle, flaire un souper, s'installe et dévore du jambon et du pâté de foie gras. Oh, il n'a peut-être pas dîné, le duc. Il est sans doute devenu bredouille de ses quotidiennes tournées au café anglais, à la maison dorée, chez Bignon, en quête d'un ami et d'un menu. Très bien avec les petites dames et les marchands de chevaux. Il fait la commission des unes, monte les bêtes des autres. Chargé de dire partout où il va, « Ah, quelle femme charmante! Ah, quelle admirable bête !» Et il reçoit en échange de ses services quelques louis avec lesquels il paye son valet de chambre. Encore un grand nom, peu à peu irrémédiablement tombé dans la pourriture des métiers abjects et des proxénétismes cachés. Celui-ci fut brillant autrefois. Il garde encore, malgré l'empourpoint qui est venu, malgré la bouffissure des chairs, une allure élégante et un parfum de bonne compagnie. Dans les mauvais lieux et les sociétés bizarres où il opère, il joue le rôle rétribué que jouaient, il y a 50 ans, les majors dans les tables d'hôtes. Sa politesse et son éducation lui sont un capital qu'il exploite en perfection. Il sait tirer parti du déshonneur des autres, aussi habilement que du sien, car nul mieux que lui ne s'entend à mettre ses malheurs conjugaux en coupe réglée. Oh, ce visage livide, encadré de favoris grisonnants, cette lèvre mince, cet œil éteint. Bon, vous ne savez pas. Longtemps, des bruits sinistres avaient couru sur ce personnage, des histoires de sang. D'abord, on eut peur et on s'éloigna. Oh, vieux souvenir, après tout. D'ailleurs, il dépensait beaucoup d'argent. Qu'importe quelques gouttes rouges qui roulent sur des piles d'or. Les femmes en étaient folles. Ce jeune homme, si joli, à la moustache si galamment retroussée. Un jour, n'ayant plus le sou et sa famille lui coupant les vivres, il eut l'ingénieuse pensée de faire croire à son repentir, quitta avec fracas une vieille maîtresse qu'il avait et s'en revint à la maison paternelle. Une jeune fille, compagne de son enfance, l'adorait. Elle était riche, il l'épousa. Mais le soir même du mariage, il emportait la dot et retrouvait la vieille maîtresse. « Elle est bonne, » ajoutait Jocelyn. « Non, la vraie, oh, elle est très bonne. » Et les complaisants, et les chassés des clubs, et les expulsés des courses, et les exécutés de la bourse, et les étrangers venus, le diable sait d'où. Qu'un scandale apporte et que remporte un autre scandale, et les vivants ont la loi, et l'estime bourgeoise qui s'adjure des royautés parisiennes devant lesquelles on s'incline, tous ils voyaient là, superbes, impunis et tarés. Juliette écoutait, amusée par ces récits, attirée par cette boue et par ce sang, flattée des hommages ignobles qu'elle sentait lui arriver des regards de ces crétins et de ces bandits. Mais elle gardait sa tenue décente, son charme de vierge, ses allures à la fois hautaines et abandonnées, pour lesquelles un jour, chez Lyra, je m'étais damné. Voilà que les figures pâlissent, les traits s'étirent, la fatigue gonfle et rougit les paupières. Un à un, il quitte le cabaret, las et inquiet. Savait-il ce que demain leur réserve, ce qui les attend chez eux, quelles ruines les guettent, au fond de quels gouffres de misère et d'infamie ils sombreront, les pauvres diables? Quelquefois un coup de pistolet creuse un vide dans la bande. Ne sera-ce pas leur tour demain? Demain. Ne sera-ce pas mon tour aussi? Ah, demain. Toujours la menace de demain. Et nous rentrions, sans rien nous dire, hébétés, mornes. Le boulevard était désert. Un grand silence s'appesantissait sur la ville. Seules les fenêtres des tripots luisaient, pareilles à des yeux de bêtes géantes, tapis dans la nuit. Sans connaître exactement ma situation de fortune, je sentais la ruine proche. J'avais payé des sommes considérables, les dettes s'accumulaient sur les dettes et, loin de diminuer, les fantaisies de Juliette devenaient plus nombreuses, plus extravagantes. L'or coulait de ses doigts comme l'eau d'une fontaine, en un ruissellement continu. Mais elle me croit sans doute plus riche que je ne le suis, pensais-je, voulant me tromper moi-même. Je devrais l'avertir, peut-être se montrerait-elle plus réservée dans ses désirs. La vérité est que j'écartais systématiquement toute idée de ce genre, que je redoutais les conséquences probables d'une pareille révélation, plus que n'importe quel malheur dans le monde. Et mes rares instants de lucidité, de franchise avec moi-même, je comprenais que, sous son air de douceur, sous ses naïvetés d'enfant gâté, sous la passion robuste et vibrante de sa chair, Juliette cachait une volonté terrible d'une belle, toujours adulée et courtisée, un effroyable égoïsme qui lui reculait devant aucune cruauté, devant aucun crime moral. Je m'apercevais qu'elle m'aimait moins que le dernier de ses chiffons, qu'elle m'eût sacrifié pour un manteau, pour une cravate, pour une paire de gants. Entraînée dans cette existence, elle ne s'arrêterait point. Et alors? Alors un grand froid me secouait de la tête aux pieds. Et qu'elle me quitta, non, non, voilà ce que je ne voulais pas. Le moment le plus pénible pour moi, c'était le matin au réveil. Les yeux fermés, ramenant les couvertures par-dessus ma tête, le corps tassé en boule, je réfléchissais à ma situation avec d'épouvantables tortures. Et plus elle me paraissait compromise, plus je me raccrochais à Juliette désespérément. J'avais beau me dire que l'argent manquerait tout à coup, que le crédit avec lequel, malhonnêtement, je prolongerais une semaine, deux semaines, l'agonie de mes espérances me serait retirée. Je m'entêtais, je m'acharnais en d'impossibles combinaisons. Je me voyais abattant des besognes formidables en 8 jours. Je rêvais de trouver des millions dans des fiacres. Des héritages prodigieux me tombaient du ciel. Le vol me hantait. Peu à peu, toutes ces folies prenaient un corps dans mon cerveau détraqué. Je donnais à Juliette des palais, des châteaux. Je l'écrasais sous le poids des diamants et des perles. L'or autour d'elle coulait, flambait. Et par-dessus la terre, je la hissais sur des pourpres vertigineuses. Puis la réalité revenait brusquement. Je m'enfonçais davantage dans le lit. Je cherchais des néants au fond desquels j'aurais disparu. Je m'efforçais de dormir. Et tout d'un coup, haletant, la sueur au front, les yeux hagards, je me collais à Juliette, l'étreignais de toutes mes forces, sanglotant. « Tu ne me quitteras jamais, ma Juliette. Dis que tu ne me quitteras jamais. Parce que vois-tu, j'en mourrai. J'en deviendrai fou. Je me tuerai. Juliette, je te jure que je me tuerai. » « Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi trembles-tu? Mais non, mon chéri, je ne te quitterai pas. Ne sommes-nous pas heureux ainsi? Et puis je t'aime tant. Quand tu es bien gentil, comme maintenant. Oui, je me tuerai, je me tuerai. Mais es-tu drôle, mon chéri? Pourquoi me dis-tu cela? Parce que... Quand j'allais tout lui révéler, je n'osais pas, et je repris. Mais parce que je t'aime, parce que je ne veux pas que tu me quittes, parce que je ne veux pas. Il fallut bien, cependant, en arriver à cette confidence. Juliette avait vu à la vitrine d'un bijoutier de la rue de la Paix un collier de perles dont elle parlait sans cesse. Un jour que nous nous trouvions dans le quartier, Viens voir le beau bijou, me dit-elle. Et le nez contre la glace, les yeux luisants, longtemps elle contempla le collier qui arrondissait sur le velours grenat de l'écrin son triple rang de perles roses. Oh, je sentais des frissons lui courir sur la peau. Pas qu'il est beau, et pas cher du tout. J'ai demandé le prix, 50 000 francs. C'était une occasion unique. Je cherchais à l'entraîner plus loin, mais Caline, se penchant à mon bras, elle me retint, et elle soupira. Ah, oh, comme il ferait bien sur le cou de ta petite femme. Elle ajouta avec un air de désolation profonde. C'est vrai aussi, toutes les femmes ont des tas de bijoux, moi je n'ai rien. Aussi tu étais bien gentil, bien gentil, tu le donnerais à ta pauvre petite Juliette, voilà. Je balbutiais. Oh oui, certainement, je veux bien, mais plus tard, dans 8 jours. Le visage de Juliette s'assombrit. Mais pourquoi dans 8 jours? Oh, je t'en prie, tout de suite, tout de suite. Ben, c'est que vois-tu maintenant? Je suis gêné, très gêné. Comment déjà? Tu n'as plus le sou? Ah, bien vrai. Où ça passe-t-il donc tout ton argent? Tu n'as plus le sou? Mais seulement je suis gêné momentanément. Eh bien alors, qu'est-ce que ça fait? J'ai demandé aussi pour le paiement. On se contenterait de billets. 5 billets de 10 000 francs, c'est pas une affaire d'État. Oui, sans doute. Plus tard, je te promets. Allez, viens. Ah, fit Juliette simplement. Je la regardais. Le pli de son front me terrifia. Je vis passer en ses yeux une flamme sombre. Et dans l'espace d'une seconde, tout un monde de sensations extraordinaires et non encore éprouvées m'envahit. Très nettement, avec une lucidité parfaite, avec un implacable sang-froid, avec une concision de jugement foudroyante, je me posais cette double question. Juliette et le déshonneur. Juliette et la prison. Oh, je n'hésitais pas. Entrons, dis-je. Elle emporta le collier. Le soir, parée de ses perles, elle s'assit sur mes genoux, radieuse et les bras noués autour de mon cou. Elle resta longtemps à me bercer de sa douce voix. Oh, mon pauvre chéri, disait-elle, je n'ai pas toujours été sage. Oui, je me rends compte. Je suis un peu folle quelquefois. Mais c'est fini maintenant. Je veux être une femme bonne, sérieuse. Et puis tu travailleras bien. Tu feras un beau roman, une belle pièce de théâtre. Et puis nous serons riches, très riches. Et puis, quand tu seras trop gênée, nous vendrons le beau collier. Parce que les bijoux, c'est pas comme les robes. C'est de l'argent, les bijoux. Allez, embrasse-moi bien fort. Ah, comme elle s'envola vite cette nuit-là. Comme les hommes, les heures s'enfuirent, effarés sans doute d'entendre hurler l'amour avec la voix maudite des damnés. Les désastres se multipliaient, se précipitaient. Des billets, souscrits aux fournisseurs de Juliette, restèrent impayés et c'est à peine si je pouvais, en empruntant partout, trouver l'argent nécessaire à notre existence quotidienne. Mon père avait laissé quelques créances à Saint-Michel. Généreux et bon, il aimait à obliger les petits cultivateurs dans l'embarras. Je lançais les huissiers sans pitié contre ces pauvres diables, faisant vendre leurs masures, leurs bouts de champ, ce par quoi ils vivaient misérablement en se privant de tout. Dans les maisons où je possédais encore du crédit, j'achetais des choses que je revendais aussitôt à vil prix. Je descendais jusque dans les brocantes les plus véreuses. Des projets de chantage inouï germaient en moi. Et je lassais Gesselin de mes perpétuelles demandes d'argent. Enfin, une fois, j'allais chez Lyra. Il me fallait 500 francs pour le soir. Et j'allais chez Lyra délibérément, effrontément. Pourtant, en sa présence, dans cet atelier tout plein de souvenirs regrettés, mon assurance tomba et j'eus une sorte de pudeur tardive. Je tournais autour de Lyra pendant un quart d'heure, sans parvenir à lui expliquer ce que j'attendais de son amitié, de son amitié. Et je me disposais à partir. Eh bien, au revoir, Lyra. Au revoir, mon ami. Ah, j'oubliais. Ne pourriez-vous pas me prêter 500 francs? Je comptais sur mes fermes, ils sont en retard. Et rapidement, j'ajoutais. Oh, je vous les rendrai demain, demain matin. Lyra fixa un instant ses yeux sur moi. Oh, je revois encore ce regard. En vérité, il était douloureux. Mais 500 francs, dit-il. Mais où diable voulez-vous que je les prenne? Est-ce que j'ai jamais eu 500 francs? J'insistai, répétant. Mais je vous les rendrai demain, demain matin. Mais je ne les ai pas, mon pauvre Mathieu. Il me reste 200 francs. Oh, si cela peut vous être utile. Je pensais que ces 200 francs qu'il m'offrait, c'était le pain de tout un mois. Je répondis, le cœur déchiré. Eh bien oui, tout de même, je vous les rendrai demain matin. C'est bon, c'est bon. J'aurais voulu à ce moment me jeter au cou de Lyra, lui demander pardon, lui crier. Mais non, non, je ne veux pas de cet argent. Et comme un voleur, je l'emportais. Mes propriétés, le prieuré lui-même, la vieille et familiale demeure, couverte d'hypothèques, furent vendus. Ah, le triste voyage que je fis à cette occasion. Il y avait bien longtemps que je n'étais retourné à Saint-Michel. Et cependant, aux heures de dégoût et de lassitude, dans la fièvre mauvaise de Paris, la pensée de ce petit pays tranquille m'était une douceur, un apaisement. Les souffles purs qui me venaient de là-bas rafraîchissait mon cerveau congestionné, calmait ma poitrine brûlée par les acides corrosifs que charrie l'air pesté des villes. Et je m'étais promis souvent, quand je serais fatigué, de toujours poursuivre les chimères, de me réfugier là, dans la paix, dans la sérénité des choses maternelles. Saint-Michel. Jamais il ne m'avait été cher autant que depuis que je l'avais quitté. Il me semblait contenir des beautés, des richesses dont je n'avais pas su jouir encore et que je découvrais subitement. J'aimais à en rappeler les souvenirs. J'aimais surtout à évoquer la forêt, la belle forêt où tant de fois, enfant inquiet et rêveur, je m'étais perdu. Délicieusement, humant l'ombre arôme des puissantes sèves, l'oreille charmée par les harmonies du vent qui fait vibrer les taillis et les futaies, ainsi que des harpes et des violoncelles, je m'enfonçais dans les grandes allées aux voûtes tremblantes de feuillage, les grandes allées droites qui, très loin là-bas, finissaient brusquement et s'ouvraient comme une belle église sur la clarté d'un pan de ciel ogival et radieux. Dans ses rêves, je voyais les branches des chênes tendre vers moi leurs bouquets plus verts, heureuses de me retrouver. Les jeunes baliveaux me saluaient au passage avec un bruissement joyeux. Ils me disaient: Regarde comme nous avons grandi, comme notre tronc est lisse et vigoureux, comme l'air est bon, nous étendons nos fines ramures balancées. Comme la terre est charitable, où nous poussons nos racines sans cesse gorgées de sucs vivifiants. Les mousses et les bruyères m'appelaient. Nous avons fait un beau lit, petit, un beau lit parfumé, et tel qu'il n'y en a pas dans les maisons avares et dorées des grandes villes. Allonge-toi et roule-toi, si tu as trop chaud, la fougère agitera sur ta tête ses légers éventails. Et si tu as trop froid, Les hêtres écarteront leurs branches pour laisser passer un rayon de soleil qui te réjouira. Hélas, depuis que j'aimais Juliette, peu à peu ses voix s'étaient tues. Ses souvenirs ne me revenaient plus comme des anges gardiens berçaient mon sommeil et secouaient leurs ailes blanches dans l'azur détruit de mes songes. Le passé s'éloignait de moi, honteux de moi. Le train filait. Il avait franchi les plaines de la Beauce, plus mélancoliques encore à regarder qu'au jour poignant de la guerre. Et je reconnaissais mes petits champs bossus et leurs haies fourrées, mes pommiers vagabonds, mes vallées étroites, mes peupliers à la cime penchée en forme de capuchon, qui ressemblent dans la campagne à d'étranges processions de pénitents bleus. Mes fermes aux toits hauts et moussus, mes chemins de traverse encaissés et rocailleux, qui dévalent, bordés de trognes de charme, sous des verdures robustes, ma forêt là-bas, noire, dans le soleil couchant. Il faisait nuit quand j'arrivais à Saint-Michel. J'aimais mieux cela. Traverser la rue en plein jour, sous les regards curieux de tous ces braves gens qui m'avaient vu enfant, oh, cela m'eût été pénible. Il me semblait qu'il y avait sur moi tant de honte qu'ils se seraient détournés avec horreur, comme d'un chien galeux. Je hâtais le pas, relevant le collet de mon pardessus. L'épicière, qu'on appelait Madame Henriette, et qui jadis me bourrait de gâteaux, était devant sa boutique, à causer avec des voisines. Oh, je tremblais qu'elle ne parlât de moi. Je quittai le trottoir et pris la chaussée. Heureusement qu'une charrette passa, dont le bruit couvrit les paroles de ces femmes. Le presbytère, la maison des sœurs, l'église, le prieuré. À cette heure, le prieuré n'était rien qu'une masse noire, énorme dans le ciel. Et pourtant, le cœur me manqua. Je dus m'appuyer contre un des piliers de la grille, reprendre haleine. À quelques pas de moi, la forêt grondait. Sa grosse voix s'enflait, colère et pareille à la voix déchaînée des brisants. Marie et Félix m'attendaient. Marie, plus vieille, plus ridée. Félix, plus courbé, dodelinant de la tête davantage. Ah, oh, monsieur Jean, monsieur Jean! Et tout de suite Marie, s'emparant de ma valise. Oh, vous devez avoir joliment faim, monsieur Jean. Ah, je vous ai fait une soupe comme vous l'aimiez, et puis j'ai mis un bon poulet à la broche. Merci, dis-je, non, je ne dînerai pas. J'aurais voulu les embrasser tous les deux, leur ouvrir mes bras, pleurer sur leur vieille face parcheminée. Eh bien, ma voix était dure, cassante. J'avais prononcé « je ne dînerai pas » sur un ton de menace. Ils m'examinaient, un peu effarés, et ne cessaient de répéter « Oh, monsieur Jean, oh, comme il y a longtemps, oh, monsieur Jean, comme vous êtes beau garçon !» Alors Marie, pensant qu'elle m'intéresserait, commença de me débiter les nouvelles du pays. Ben, ce pauvre monsieur le curé est mort, vous avez dit ça? Oh, le cerveau nouveau ne prend point ici, c'est trop jeune, ça veut faire du zèle. Et Baptiste, ben, il a été tué par un arbre. Je l'interrompis. Bien, bien, Marie, vous me conterez tout cela demain. Elle me conduisit à ma chambre et me demanda « Faudra-t-il vous porter votre bol de lait, monsieur Jean? »« Bon, comme vous voudrez. » Et la porte refermée, je m'abattis dans un fauteuil et longtemps, longtemps, je sanglotais. Le lendemain, je me levai dès l'aube. Le prieuré n'avait pas changé. Il y avait seulement un peu plus d'herbe dans les allées, de mousse sur le perron, et quelques arbres étaient morts. Je revis la grille, les pelouses teigneuses, les sorbiers chétifs, les marronniers vénérables. Je revis le bassin où baignaient les arômes, où le petit chat avait été tué, le rideau de sapin qui cachait les communs, l'étude abandonnée. Je revis le parc, ses arbres tordus et ses bancs de pierre pareils à de vieilles tombes. Dans le potager, Félix binait une plate-bande. Et comme il était cassé, le pauvre homme. Il me montra une épine blanche et me dit « C'est là que vous veniez avec défunt votre pauvre père pour guetter le merle. Vous rappelez-vous bien, monsieur Jean ?»« Oh oui, oui, Félix. » « Et puis la grive et tout, dame. Oui, oui, Félix. » Je m'éloignais. Je ne pouvais supporter la vue de ce vieillard qui pensait mourir au prieuré et que j'allais chasser et qui s'en irait où. Il nous avait servis avec fidélité. Il était presque de la famille, pauvre, incapable de gagner sa vie désormais. Et j'allais le chasser. Mais oh, comment ai-je fait cela ? Au déjeuner, Marie me parut nerveuse. Elle tournait autour de ma chaise avec une agitation inaccoutumée. « Faites des excuses, monsieur Jean, me dit-elle enfin. Faut que j'en ai le cœur net. C'est-il vrai que vous vendez le prieuré ?»« Oui, Marie. » La vieille fille écarquilla les yeux, stupéfaite, et posant ses deux mains sur la table, elle répéta « Vous vendez le prieuré ?» « Oui, Marie. »« Le prieuré où toute votre famille est née, le prieuré où votre père et votre mère sont morts, le prieuré, Seigneur Jésus. »« Eh oui, Marie. » Elle se recula comme effrayée. « Mais vous êtes donc un méchant enfant, monsieur Jean. » Ne le répondit rien. Marie sortit de la salle à manger et ne m'adressa plus la parole. 2 jours après, mes affaires terminées, les actes signés, je repartais. De ma fortune, il me restait de quoi vivre 1 mois, à peine. C'était fini, bien fini. Des dettes écrasantes, des dettes ignobles, et rien. Ah, si le train avait pu m'emporter loin, toujours plus loin, n'arrivait jamais. Et c'est à Paris que je m'aperçus seulement que je n'avais pas été m'agenouillé sur les tombes de mon père et de ma mère. Juliette me reçut tendrement. Elle m'embrassait avec passion. « Oh, mon chéri, oh, j'ai cru que tu ne reviendrais plus. 5 jours, pense donc. D'abord, si tu refais encore des voyages, je veux aller avec toi. » Elle se montrait si affectueuse, si véritablement émue. Ses caresses me donnaient tant de confiance, et puis ce que j'avais de gros sur le cœur me semblait si lourd à porter que je n'étais pas à lui tout avouer. Je la pris dans mes bras et l'assis sur mes genoux. « Écoute-moi, ma Juliette, lui dis-je, écoute-moi bien. Je suis perdu, ruiné, ruiné, entends-tu, ruiné. » Nous n'avons plus que 4 000 francs. Pauvre mignon, soupira Juliette en posant sa tête sur mon épaule. Pauvre mignon. J'éclatai en sanglots et je m'écriai. Tu comprends qu'il faut que je te quitte et j'en mourrai. Allons, tu es fou de parler ainsi. Est-ce que tu crois que je pourrais vivre sans toi, mon chéri? Voyons, ne pleure pas, ne te désole pas. Elle essuya mes yeux humides et continua de sa voix, à chaque instant plus douce. « D'abord, nous avons 4 000 francs. Nous pouvons vivre 4 mois avec cela. Et pendant ces 4 mois, tu travailleras. Voyons, en 4 mois, tu n'as pas le temps de faire un beau livre. Mais ne pleure plus, parce que si tu pleures, je ne te dirai pas un gros secret, un gros, gros, gros secret. » Sais-tu ce qu'elle fait, ta petite femme, qui se doutait bien un peu de cela? Le sais-tu? Eh bien, depuis 3 jours, elle va au manège, elle prend des leçons d'équitation, et l'année prochaine, comme elle sera très forte, Franconi l'engagera. Et c'est tout ce que gagne une écuyère de haute école. 2 000, 3 000 francs par mois. Ainsi, tu vois qu'il n'y a pas de quoi se désoler, pauvre mignon. Toutes les déraisons, toutes les folies m'étaient bonnes. Je m'y accrochais désespérément, comme le marin perdu s'accroche aux épaves incertaines que la vague pousse. Pourvu qu'elle me soutînt un instant, je ne demandais pas vers quel plus dangereux récif, vers quelle profondeur plus noire elle m'entraînerait. Je conservais aussi cet espoir absurde du condamné à mort, qui jusque sur la sanglante plateforme, jusque sous le couteau, attend un événement impossible, une révolution instantanée, une catastrophe planétaire qui le délivreront de la mort. Je me laissais bercer par le joli ronron des paroles de Juliette. Des résolutions de travail héroïques me venaient à l'esprit, me jetaient dans des enthousiasmes désordonnés. J'entrevoyais des foules haletantes penchées sur mes livres, des théâtres où des messieurs graves et maquillés s'avançaient, lançant mon nom aux admirations frénétiques du public. Vaincu par la fatigue, brisé par l'émotion, je m'endormis. Nous finissons de dîner. Juliette a été plus tendre encore qu'au moment de mon retour. Pourtant, je vois en elle une inquiétude, une préoccupation. Elle est triste et gaie tout à la fois. Qu'y a-t-il donc derrière ce front où des nuages passent? Malgré ses protestations, est-elle décidée à me quitter? Veut-elle rendre moins pénible notre séparation en me prodiguant tous les trésors de ses caresses? Que c'est donc ennuyeux, mon chéri, dit-elle, il faut que je sorte. Comment il faut que tu sortes? Maintenant? Mais oui, figure-toi, cette pauvre Gabrielle est très malade, elle est seule. J'ai promis d'aller la voir. Oh, je ne serai pas longtemps, 1 heure à peine. Juliette parle très naturellement. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'elle ment, qu'elle ne va pas chez Gabrielle. Et je suis mordu au cœur par un soupçon vague, affreux. Je lui dis, mais ne pourrais pas, tu vois, attendre demain? Oh, c'est impossible. Tu comprends, j'ai promis. Non, je t'en prie, demain. C'est impossible, cette pauvre Gabrielle. Eh bien, je vais avec toi. Je resterai à la porte, je t'attendrai. Sournoisement, je l'examine. Son visage n'a pas frémi. Non, en vérité, elle n'a pas eu la moindre surprise des nerfs. Elle répond avec douceur. C'est pas raisonnable. T'es fatigué, mon chéri. Allez, couche-toi. Et déjà, j'ai vu glisser comme une couleuvre la traîne de sa robe derrière la porte retombée. Juliette est dans son cabinet de toilette. Et moi, les yeux obstinément fixés sur la nappe où danse le reflet rouge d'une bouteille de vin, je réfléchis que dans ces temps derniers, des femmes sont venues ici, des femmes grasses, louches, des femmes qui avaient l'air de chiennes, flairant des ordures. Et j'ai demandé à Juliette, mais qui sont ces femmes? Et Juliette m'a répondu une fois, oh, c'est la corsetière, une autre fois, mais c'est la brodeuse. Et je l'ai cru. Un jour, sur le tapis, j'ai ramassé une carte de visite qui traînait. Madame Rabineau, 114 rue de Sèze. Qui ça, Madame Rabineau? Juliette m'a répondu. Oh, c'est rien, donne. Et elle a déchiré la carte. Et moi, imbécile, je suis même pas allé rue de Sèze pour savoir. Oh, je me souviens de tout cela. Mais comment n'ai-je pas compris? Mais comment n'aurais-je pas sauté à la gorge à ces vilaines brocanteuses de viande humaine? Et un grand voile se lève, par-delà lequel je vois Juliette, le ventre sali, épuisé et hideuse, se prostituant à des boucs. Juliette est là, devant moi, qui met ses gants, devant moi, en costume sombre, avec une voilette épaisse qui lui cache la figure. L'ombre de sa main court sur la nappe. Elle s'allonge, s'élargit, se rétrécit, disparaît et revient. Toujours je verrai cette ombre diabolique, toujours. Embrasse-moi bien, mon chéri. Ne sors pas, Juliette, ne sors pas, je t'en conjure. Embrasse-moi bien fort, plus fort encore. Elle est triste. À travers la voilette épaisse, je sens sur ma joue l'humidité d'une larme. Et pourquoi pleures-tu, Juliette? Oh, Juliette, par pitié, reste près de moi. Embrasse-moi, je t'adore, mon Jean, je t'adore. Elle est partie. Des portes s'ouvrent, se referment. Elle est partie. Dehors, j'entends le bruit d'une voiture qui roule. Le bruit s'éloigne, et meurt. Elle est partie. Et me voilà dans la rue, moi aussi. Un fiacre passe. 114 rue de 16. Ah, ma résolution a été vite prise. J'ai réfléchi que j'avais le temps d'arriver avant elle. Elle a bien compris que je n'étais pas dupe de la maladie de Gabriel. Ma tristesse, mon insistance, lui ont sans doute inspiré la crainte d'être espionnée, suivie. Et vraisemblablement, elle ne sera pas dirigée tout droit là-bas. Mais pourquoi cette abominable pensée est-elle tombée sur moi, tout à coup comme la foudre? Pourquoi cela et pas autre chose? Oh, j'espère encore que mes pressentiments m'ont trompé, et que Madame Rabineau, ce n'est rien, et que Gabriel est malade. Une sorte de petit hôtel étranglé entre deux hautes maisons, une porte étroite creusée dans le mur, au-dessus de trois marches, une façade sombre, dont les fenêtres closes ne laissent filtrer aucune lumière. C'est là qu'elle va venir, qu'elle est venue peut-être. Et des rages me poussent vers cette porte. Je voudrais mettre le feu à cette maison. Je voudrais, dans une flambée infernale, faire hurler et se tordre toutes les chairs damnées qui sont là. Tout à l'heure, une femme, les mains dans les poches de sa jaquette claire, les coudes écartés, est entrée en chantant et en se dandinant. Mais pourquoi ne lui ai-je pas craché à la figure? Un vieillard est descendu de son coupé, il a passé près de moi, s'ébrouant, soufflant, soutenu aux aisselles par son valet de chambre. Ses jambes tremblantes ne pouvaient le porter. Entre ses paupières bouffies, molles, usait une flamme de débauche sanguinaire. Et pourquoi n'ai-je pas balafré la face hideuse de ce vieux faune ataxique? Il attend peut-être Juliette. La porte d'enfer s'est refermée sur lui. Et un instant, mes yeux ont plongé dans le gouffre. Je croyais voir des flammes rouges, de la fumée, des enlacements abominables, des dégringolades d'êtres affreusement mêlés. Non, non, c'est un couloir triste, désert, éclairé par la clarté pâle d'une lampe, puis au fond, quelque chose de noir, comme un trou d'ombre, où l'on sent grouiller des choses impures. Et les voitures s'arrêtent, vomissant leur provision de fumier humain dans cette sentine de l'amour. Une petite fille de 10 ans à peine me poursuit. Les belles violettes. Je lui donne une pièce d'or. Va-t'en, petite, va-t'en. Ne reste pas là, il te prendrait. Mon cerveau s'exalte. J'éprouve au cœur la douleur de 1000 crocs, de 1000 griffes qui le fouillent, le déchirent, s'acharnent. Des désirs de meurtre s'allument en moi et mettent dans mes bras des gestes de tuer. Oh, me précipiter le fouet en main au milieu de ces priapés, de zébrer ces corps ineffaçables, plaies, éparpillaient des coulées de sang chaud, des morceaux de chair vive, sur les glaces, sur les tapis, les lits. Et à la porte de la maison infâme, ainsi qu'une chouette aux portes des granges campagnardes, clouait la Rabineau, nue et ventrée, les entrailles pendantes. Un fiacre s'est arrêté, une femme en sort. J'ai reconnu le chapeau, la voilette, la robe. Juliette! En me voyant, elle pousse un cri. Mais elle se remet vite. Ses yeux me bravent. Laisse-moi, crie-t-elle, que fais-tu là? Laisse-moi. Je lui broie les poignets et d'une voix qui s'étrangle, qui râle. Écoute-moi. Si tu fais un pas, si tu dis un mot, je te renverse sur le trottoir et je t'écrase la tête sous le talon de mes souliers. Laisse-moi. Lourdement, je plaque une main sur son visage et de mes ongles furieux, je laboure son front, ses joues, tout le sang jaillit. Jean, oh Jean, pitié, je t'en prie, Jean, grâce, grâce, sois bon, tu me tues. Je la conduis brutalement vers la voiture et nous rentrons. Pliée en deux, elle est là, près de moi, qui sanglote. Que vais-je faire? Oh, je n'en sais rien. En vérité, je n'en sais rien. Je ne me demande rien, je ne pense à rien. Il me semble qu'une montagne de rochers s'est abattue sur moi. J'ai cette sensation de blocs lourds sous lesquels mon crâne s'est aplati, ma chair s'est écrasée. Pourquoi, dans le noir où je suis, pourquoi ces mureaux et blafards fuient-ils dans le ciel? Pourquoi des oiseaux sombres volent-ils dans des clartés subites? Pourquoi une chose affaissée près de moi pleure-t-elle? Pourquoi? Je l'ignore.